Et si au-dessus de toute création musicale se trouvait une entité, difficilement perceptible, une sorte d'entité forte, puissante, presque mystique, donnant l'énergie suffisante à un être humain pour intercéder musicalement. En 3 épisodes, je vous propose d'essayer de saisir cet imperceptible et le découvrir à travers plusieurs personnages. Ces personnages, d'ailleurs, qui lient leur pratique de ce que nous, occidentaux, appelons musical, avec les éléments de la nature, la révélant alors en force créatrice.
La première, celle où il y a Max gravé dessus, c'est la...
C'est celle avec laquelle je joue la flûte des mornes.
Aujourd'hui, c'est donc l'épisode 2, et lorsque l'on écoute le flûtiste Max Silla, il se passe quelque chose d'étrange, provoquant une cascade d'émotions internes. Il faut dire que Max Silla, c'est le père de la flûte des mornes, et qu'il manie un instrument qui porte une âme. Celle des mornes, donc, espace naturel et sacré, chargé d'histoire, situé dans les hauteurs de la Martinique. Alors lorsque l'on évoque avec lui la question de sa création musicale et de son inspiration, c'est naturellement que les thèmes de conscience d'être soi, source universelle, et spiritualité lui viennent, car c'est, comme il le dit, ce qu'il est.
Ou est-ce que c'est le bois ou la matière qui fait ça aussi?
Eh bien, ça se conjugue, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'instrument. Déjà, je vais vous montrer une chose, c'est que le volume, ce qu'on appelle la colonne d'air, des flûtes des mornes, elle est importante, le calibre, par rapport à la tonalité. De l'adolescence, et j'étais au Robert et j'ai pris un bambou et j'étais naturellement un peu attiré par ça. J'ai essayé de fabriquer une flûte en bambou, mais à bec, parce que j'avais un pipeau en celluloïde que mon frère aîné avait eu en cadeau et puis qui me l'a passé. Et je jouais souvent un petit pipeau à bec très simple, à 6 trous. Donc j'ai essayé de faire une réplique du pipeau, mais en bambou. Donc j'ai commencé à bricoler comme ça, des flûtes, parce que j'aimais ça. Ça c'est important aussi. On avait déjà ce sens en Martinique, la Martinique de cette époque, de ce qu'on appelle maintenant le recyclage. On le faisait naturellement, parce que les situations précaires dans lesquelles on vivait, nous incitaient à crier, parce qu'on ne pouvait pas... acheter les choses. Et finalement, je constate à quel point c'était un avantage. Voilà, donc c'est parti de là. Mes premiers essais de fabrication vers 15-16 ans. Et c'est une période aussi où j'ai entendu, à la radio bien sûr, une autre flûte, qui est la flûte cubaine, des orchestres comme l'Orchestra Aragon de Cuba, l'Orchestra Sensación, l'orchestre José Fajardo, un grand flûtiste cubain. À la radio, on entendait ces musiques qui passaient, c'est des orchestres à cordes, un peu comme l'orchestre Malavoie, mais avec la flûte comme instrument soliste. Et ça m'a beaucoup séduit, cette flûte cubaine. Et après, il y avait un de ces orchestres comme ça à Paris, mais qui n'était pas à cordes. Par contre, il y avait la flûte, mais c'était avec des cuivres qu'on appelait Los Matecoco, et qui est venu jouer aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Mais il faut dire une chose, c'est que tout se passait essentiellement au niveau du sentiment. J'avais pas de préoccupation, toujours, j'insiste beaucoup là-dessus, intéressé pour être musicien, pour projeter des choses dans le futur, rien de tout ça. C'est-à-dire, je savais que la flûte me plaisait, m'attirait, donc c'est tout. Mais je n'ai pas fait de calcul, de stratégie là-dessus. Là, je fais la même chose. Quand j'ai entendu ces musiques, ces artistes s'exprimer, j'ai pensé tout de suite à notre flûte des mornes, de Martinique et peut-être d'autres îles aussi, des Caraïbes. Je sais que, d'après ce que dit Simone Charles Barthes dans un de ses écrits, Et en Guadeloupe, dans les Mornes, il y a eu aussi certains flûtistes qui pratiquaient comme ça, en autodidacte, la flûte dans les Mornes de la Guadeloupe. Mais disons, ça s'est plus développé en Martinique. Donc, quand je suis arrivé, que j'ai découvert ça, j'ai dit, ah, je vais revendiquer notre patrimoine, notre richesse rurale, la tradition orale des Mornes, avec ses flûtes de bambou autour du tambour belay, du tambour dibas, du tibois, etc. Ça, c'est venu automatiquement. Ça s'est imposé à moi. Parce que j'ai tellement aimé toutes ces soirées que je vivais à l'escale d'écoute musicale. Et puis j'allais faire le bœuf aussi avec les Cubains, parce que je m'étais acheté cette flûte en ébène. Et donc, c'est tout un brassage d'expériences diverses. Et donc, j'ai commencé à rechercher où je peux me procurer du bambou, parce que je vivais à Paris. Et j'ai découvert un lieu, quai de Gemap, à Paris, où il y a un grand dépotoir qui s'appelle Comptoir Indo-Sino-Japonais. Parce qu'ils importaient du bambou de l'Inde, de la Chine et du Japon. Et j'emmenais ces bambous chez moi, et j'ai commencé à expérimenter. Je me suis dit, il faut officialiser notre flûte des Mornes. À l'époque, on ne disait pas encore flûte des Mornes. À la campagne, on appelait ça la toutoune bambou, ce qui veut dire tube sonore de bambou. C'est ça, parce que les quelques gars qui jouaient ces flûtes, c'est comme ça qu'ils désignaient cette flûte à la campagne. D'ailleurs, il y a une chanson de Mona où il dit « Titoutoune bambou moins bon » et tout ça. C'était le langage général de définition de cette flûte qui est devenue la flûte des Mornes avec moi, parce que c'est moi qui ai donné l'appellation flûte des Mornes, pour qu'on sache dans le temps à venir que l'origine de cette flûte, son histoire, que ça vient des Mornes. Mais déjà, c'est une chose, je vais à mon tour parler, parce que j'ai parlé de la musique de Mona, mais de ma propre création musicale. Parce qu'en fait, j'ai entendu cette flûte, mais autant j'ai développé la connaissance technique, la maîtrise et tout ça, ma musique s'est révélée progressivement, ma propre musique. Parce que comme beaucoup de musiciens, presque tous, on passe toujours par une phase d'interprétation où on joue les airs connus avant de créer ses propres airs. On joue ce qui est du répertoire, du patrimoine, de sa culture. Donc, je jouais les classiques martiniquais, c'est un classique cubain, tout ça. Mais c'est au fur et à mesure que, comme je vous dis, je suis retourné en Martinique en 70. Je suis resté jusqu'en 3 ans, jusqu'à fin 73. Et j'ai commencé à recevoir des inspirations venant de la nature, de ces mêmes mondes, de mon pays. Et j'ai commencé à créer des airs comme la baie du Goubert, la balade dans la forêt d'Ajoupabouillon, la flûte des Mornes, crépuscule tropical. Tout ça, c'est des airs qui me sont venus spontanément d'une relation intime avec la nature. Une communion, je vais même dire, avec la nature. Savoir sentir, apprécier, aimer, communier avec la nature. Parce qu'elle nous parle énormément. De mes compositions, ça rejoint tout ce que j'ai dit au début sur la relation à la nature. Et l'écoute intérieure. Parce que la plupart des créations reposent sur des états d'âme. Il y a deux aspects. Il y a un phénomène d'état d'âme qui est tout purement intuitif, qui appartient au monde des sentiments, du ressenti. Et un aspect plus rationnel, intellectuel, de la conscience objective et analytique qui permet d'élaborer, qui se conjugue avec la conscience subjective qui est celle du ressenti, il y a le ressenti et l'analyse. Et à partir de ça, on structure un thème. Mais au départ, il y a l'inspiration. C'est cette inspiration qui est la chose fondamentale. C'est l'âme du thème, du morceau. C'est la vibration. Et quel que soit le style de création musicale. Je vais citer par exemple, quand Bona chante Bois brûlé, il rentre dans la peau du personnage, il est, et lui-même, c'est un peu sa vie, parce que c'est un travailleur de la terre. Bona travaille aussi comme son métier aussi, c'était la menuiserie, l'ébénisterie, il a travaillé dans ce domaine-là. Mais il a aussi travaillé dans les champs. Donc il a une bonne relation avec la terre. Donc le ressenti, c'est très important dans la création. Parce que l'œuvre artistique, dans sa nature et son émanation, ce qui émane de l'œuvre artistique, quelle qu'elle soit, révèle la source de sa nature. C'est-à-dire, à partir de quelle source cette œuvre a vu le jour, a émergé. Cette source, c'est la vibration inaltérable qui anime l'œuvre. Quand on parle des grands classiques, même du domaine de la peinture, quand les gens parlent de la Joconde, par exemple, qui est l'œuvre de Léonard de Vinci, qui fait défiler plein de gens pour la contempler, eh bien, il y a une expression dans cette peinture que n'importe qui vient, qui a une certaine sensibilité, sent qu'il y a quelque chose qui émane de ce portrait, qui est extraordinaire, qui parle. Il y a en même temps une dimension énigmatique. Eh bien, l'œuvre artistique, le véritable œuvre artistique, c'est ça. Et quand je parle de la Joconde, je vais parler de certains peintres haïtiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, comme Ralph Allen et Val Saint-Deux, par exemple. Eh bien, ce sont des grands peintres. J'ai vu des portraits de Ralph Allen, pour moi, qui n'ont rien à envier à la Joconde. Tellement c'est vivant. J'ai vu des portraits de femmes noires haïtiennes qu'il a fait, mais quand tu regardes le visage de la femme sur le tableau, tu as l'impression d'avoir toute une ontologie de la vie devant soi. Et ça, c'est la sensibilité profonde de l'artiste qui lui fait mettre ça dans l'œuvre. S'il n'y a pas cette sensibilité, tu peux pas. La technique n'est qu'un moyen. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fourvoient là-dessus, qui ont tendance à faire de la technique un élément de démonstration, de finalité. La technique, c'est le moyen, c'est pas la fin. Quand l'œuvre émane du mental, eh bien, ça nous maintient aussi dans le mental. L'œuvre qui émane d'une inspiration, eh bien, ça nous amène à la source d'inspiration dont elle émane. C'est extraordinaire, c'est ça. Donc la création, c'est d'abord une relation profonde avec son être intérieur. Et quand on établit le lien entre notre psyché humaine, notre conscience humaine, quand je dis la psyché, ça comprend l'aspect subjectif, sensitif, et l'aspect objectif, les deux aspects de la conscience. Donc, quand notre psyché se met en résonance, en concordance avec notre soi universel, notre je suis universel, eh bien à ce moment-là, notre vie, l'aspect existentiel est transcendé par une dimension illimitée. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce message qui passe dans ma musique, parce que ça correspond à ma vie. Donc la création de mes œuvres musicales repose sur ça. C'est pour ça d'ailleurs que, tout en m'inspirant de la tradition des mornes d'origine, la musique que je fais dépasse les paramètres du folklore, tout en portant en elle certaines caractéristiques de ce folklore. C'est ça qui est extraordinaire. Sans se limiter aux normes drastiques du folklore. C'est-à-dire que je vois la spécificité, mais cette spécificité est amenée à un niveau infini, rejoint l'universel. Parce que le mot univers, ça veut dire l'unité originelle de la création, la conscience universelle originelle, le un qui s'exprime dans des milliards de diversités. C'est ça. Et donc, toute cette démarche qui a été au départ autodidacte de ma part et qui a ensuite été enrichie par l'étude des traditions, parce que je me suis intéressée à toutes les grandes traditions spirituelles. Et c'est là que ça m'a renforcé, j'ai compris des choses fondamentales. Et j'avais ces échanges-là avec Mouna, hein. Bah quoi ? Et quels que soient les thèmes que je joue, et chaque thème a son... C'est comme la poésie, hein. Suivant le poème qu'on dit, il y a une intonation, il y a une manière de le dire, suivant ce qui est évoqué par le poème, et bien la musique c'est pareil. En fonction de ce qui est évoqué, il y a un type d'expression qui... Et l'art, normalement, doit être un stimulateur de l'éveil de conscience. Ouais, c'est comme ça que je vis ma musique.
Merci beaucoup.
Et dans la joie. Et dans la joie. J'insiste beaucoup sur la joie, ce qui est des attributs aussi importants, très importants, de la pure conscience, de la conscience universelle, la joie.